Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
En Autriche, mais le chemin vers l'Autriche mène aujourd'hui tout d'abord vers Ibiza, plus précisément vers ce que l'on appelle maintenant l'Ibiza Gate. Comme vous le savez, un séisme a frappé l'extrême droite autrichienne ce week-end. Après la publication d'une vidéo tournée donc à Ibiza, montrant le chef du FPO, le parti nationaliste, négociant un pacte de corruption avec une supposée oligarque russe, de quelle influence dispose la Russie sur les gouvernements des pays d'Europe centrale? Ce scandale peut-il affaiblir les partis d'extrême droite européens à quelques jours des élections européennes? Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI. Vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, publié aux presses de Sciences Po, que vous a appris cette petite vidéo où on voit donc cet homme numéro 2 du gouvernement autrichien, Hans Christian Strache, qui est en train de prendre l'apéritif et négocier de manière extrêmement libre la manière dont le gouvernement pourrait être corrompu. Qu'est-ce que ça montre ?
Ça montre plusieurs choses. D'abord, que l'argent et la politique au plus haut niveau font un ménage étrange, que la, disons, le degré de corruption ou de corruptibilité plus au niveau de nouveaux ministres qui cherchaient la respectabilité depuis leur entrée au gouvernement en 2017. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est bien sûr les liens avec la Russie, parce que là on a non seulement quelqu'un qui est prêt à se faire corrompre, qu'il veut aussi remodeler le paysage médiatique, deuxième objectif, hein, financement du parti, remodeler le paysage médiatique. Il parle de racheter le journal Kronenzeitung, qui est le grand tabloïd autrichien. Il y en a deux, il y a le Kronen et le Courir. On appelle ça K&K, c'est bien dans la tradition autrichienne. Et donc racheter, remodeler le paysage médiatique, dit-il, sur le modèle Orban. C'est ça qui l'intéresse. Et alors la chose la plus importante, tout ça se fait, est censé se faire avec l'argent d'un oligarque russe. Donc le lien avec la Russie entre un parti d'extrême droite et la Russie, là, et je pense, est devenu explicite. Ça pose aucun problème à M. Strache, vice-président du gouvernement autrichien, d'être en quelque sorte, entre guillemets, à la solde d'une puissance étrangère.
Alors on précise évidemment qu'il a été démis. Par la suite, on va revenir sur les liens avec la Russie, mais sur la question de la corruption, parce que, encore une fois, il est très décontracté sur cette vidéo. Alors, il explique, par exemple, qu'il y a un grand réseau d'agences immobilières, qui arrose tout le monde. Enfin, bref, il en parle de manière extrêmement directe. Ça signifie que le niveau de corruption en Autriche est assez respectable, Jacques Rupnik.
Disons qu'il y avait, deux types de corruption. Il y avait la corruption qui consistait pour les grands partis à s'approprier l'État. L'État était très puissant en Autriche, l'économie autrichienne, parce que je parle ça avant l'ère libérale, disons, des 30 dernières années, mais l'économie autrichienne était très, un peu comme en France, bon, c'était les deux pays où le secteur étatique était très important. Et donc,
Vous voulez dire qu'en France, on pourrait filmer ce genre de scène?
Je ne garantis rien, en tout cas.
parce que c'est encore une fois une scène assez hallucinante. Oui. Donc le réseau d'agences immobilières arrose comme ça la classe politique.
Ça, c'est le secteur privé. Mais au départ, dans la corruption en Autriche, c'était en gros l'appropriation de l'État par les grands partis. Tantôt les sociaux-démocrates, tantôt les chrétiens, la droite chrétienne. Et la corruption était liée à... Et les libéraux, donc, puisque l'extrême droite, alors c'est ça le paradoxe autrichien, c'est le parti libéral. Et eux invoquaient justement, contre ce système corrompu, eux se prétendaient les adeptes du marché, etc. Mais évidemment, eux-mêmes pratiquaient la corruption, et dans le secteur immobilier, il y a eu plusieurs scandales à répétition, et c'est ainsi que s'est financé ce parti. C'est tout à fait clair. Mais c'est ça le paradoxe, c'est le parti alternatif, l'extrême droite. Uh-huh. est... Alors, déjà, ils sont libéraux, ce qui est un paradoxe, ils s'affichent libéraux. Ils ont été créés, mais il y a une longue tradition de cela, mais le parti lui-même a été créé dans les années 50, au milieu des années 50, par d'anciens nazis d'ailleurs, recyclés dans la politique autrichienne. Mais très vite, ils ont voulu non pas parler du passé, mais justement donner cet élément, disons, libéral qui avait ses assises en Autriche comme en Europe centrale. Ce mélange de libéralisme et de nationalisme, parce que c'est ça qui est arrivé en Autriche. Le grand parti libéral de la fin du 19e siècle, c'était le premier parti en Autriche à la fin, les libéraux. Et ils sont devenus nationalistes, de plus en plus nationalistes à la fin du 19e et surtout à la fin de l'Empire. Quand l'Autriche est devenue cette espèce d'État résidu, les libéraux réclamaient l'annexion par l'Allemagne. Ils étaient favorables à l'Anschluss. Et donc, le libéralisme est passé au nationalisme dans la tradition autrichienne. Ils sont devenus des nationalistes et on sait que les Autrichiens ont accueilli avec beaucoup de faveur et parfois d'enthousiasme l'Anschluss en 1938. Voilà, c'était la réalisation. Cet État ne devait pas exister, c'était un résidu de l'Empire et valait mieux s'associer à l'Allemagne. C'était ça l'idéologie qui les a menés dans les bras du nazisme, en quelque sorte, et à sa façon, le Parti libéral inventé dans les années 50 et 60, renouer avec cette tradition-là.
Justement, Jacques Rupnik, vous qui êtes historien, qui connaissez bien l'histoire de l'Europe centrale, en quoi l'évolution de l'Autriche, l'évolution actuelle de l'Autriche, est aussi la conséquence de la désagrégation de l'Empire austro-hongrois ? Qu'y a-t-il dans cette queue de comète ?
Je crois que c'était cette grande question qui aujourd'hui ne se pose plus, mais qui se posait après 1918. Que faire de cet État ? La plupart des forces politiques, y compris les socialistes, souhaitaient se rassembler avec l'Allemagne, puisque l'Empire n'existait plus. Ils étaient les Allemands de l'Empire ou les germanophones de l'Empire, eh bien, s'associer à l'Allemagne était la solution qui leur paraissait la plus plausible et la plus désirable. Mais tout ça était terminé avec la guerre, parce que ça s'est terminé par l'épisode cruel de l'Anschluss. Hitler, autrichien au départ. L'Anschluss se faisait sous l'égide de l'Allemagne nazie. Ça a été un traumatisme et on ne reparle plus de cette question après la guerre. Par contre, l'Autriche devient un pays neutre. Et c'est un pays neutre qui fait un peu le go-between entre l'Est et l'Ouest. C'est une plaque tournante. Et ce neutralisme autrichien favorise la présence sur place voilà, c'est la plaque tournante aussi du renseignement dans la guerre froide. Les intérêts russes y étaient toujours présents, mais tout ça était, j'allais dire, masqué sous la présidence du chancelier Kreisky, qui est un homme qui a longtemps régné, un social-démocrate.
Qu'a-t-il fait ?
Un social-démocrate, il a voulu en quelque sorte tourner la page de cette page-là, son plus sombre de l'histoire autrichienne. À la fois l'Autriche entre l'Est et l'Ouest, profitant économiquement, se faisant aussi le médiateur dans certaines négociations internationales. Voilà, donner une respectabilité nouvelle à l'Autriche. Mais, alors c'est ça, déboucher sur quelque chose qui est le... disons, la connivence entre les deux grands partis, parfois ensuite, gouverner ensemble. Et alors, à force de gouverner ensemble, quand la droite et la gauche gouvernent ensemble, le parti chrétien et le parti social-démocrate, principal parti d'opposition, c'est à ce moment-là les libéraux et l'extrême droite. Plus tard, il y aura le parti vert, qui deviendra le quatrième parti, et un parti d'opposition aussi, qui n'est pas sans importance, puisqu'on a vu dans l'élection présidentielle autrichienne, il y a 2 ans, s'affronter 2 candidats au deuxième tour. Un, le parti de l'extrême droite, M. Hofer, et le candidat du parti écologiste. Et c'est le candidat écologiste qui l'a emporté d'un 0,5%. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les deux grands partis étaient absents du second tour. Un peu comme en France, d'ailleurs, à la présidentielle. Donc on avait là une situation nouvelle. L'affaissement des grands partis ouvre la possibilité à un parti d'extrême droite de se positionner et de devenir incontournable pour la constitution d'une coalition. C'est ce qui a amené le chancelier Kurz à inclure un parti d'extrême droite en espérant l'amadouer. On a vu que ça avait quelques risques.
Ce parti d'extrême droite, Jacques Rupnik, fondé par d'anciens nazis, quel lien justement a-t-il avec le nazisme? S'agit-il de gens qui ont condamné le nazisme, qui sont dans une situation parfois plus trouble, plus ambiguë par rapport précisément aux années 30?
Disons, la particularité de l'Autriche, c'est que bien sûr, personne ne veut revenir. Ça a été un traumatisme à la situation d'avant 38. Par contre, il n'y a pas eu, après la guerre, de dénazification. C'est la grande différence avec l'Allemagne. L'Allemagne a eu une dénazification et c'est pour ça que l'extrême droite n'a jamais pu en Allemagne se développer. Elle est restée toujours marginale, encore que c'est en train de changer avec Alternative für Deutschland. On a vu que maintenant c'est le premier parti d'opposition en Allemagne. Mais jusqu'à maintenant, c'était ça. L'Allemagne avait dénazifié et donc l'extrême droite était, disons, minuscule politiquement et sous haute surveillance. En Autriche, il n'y a pas eu de dénazification. Haider, lorsque Jörg Haider, qui est devenu le leader du parti, le FPÖ, le parti libéral, disons, d'extrême droite, et Haider est entré en coalition au gouvernement avec Schüssel, avec les chrétiens, en 2000, et ils ont créé un gouvernement, cri effrayé dans toute l'Europe à ce moment-là, mais Haider faisait de la provocation aussi. Il disait finalement le nazisme, ça n'avait pas que des mauvais côtés, économiquement, ça avait apporté le développement, la stabilité, ce genre de choses. Donc il y avait ce côté, disons, décomplexé par rapport au passé, mais dans un justement
enfin qui ne lui a pas coûté électoralement,
qui ne lui a nullement coûté électoralement, c'est ça qui est stupéfiant. Je pense à certains pays d'Europe centrale que je connais bien, où le passé communiste de certains politiciens ne trouble plus. Et je crois qu'en Autriche, un peu le passé nazi ou la référence à un passé nazi était banalisée en quelque sorte.
Bon, alors là, parce que le parallèle va devoir être complexifié entre le passé communiste de certains
je ne fais nullement d'équivalence.
J'imagine bien.
Parallèle. Par contre, je parle là de la mémoire et des électeurs. Si vous dites aujourd'hui un électeur tchèque, ah mais votre premier ministre est un ancien membre du Parti communiste, qui est le cas, ça n'a pas l'air de les troubler. Il a 30% aux élections et Monsieur Babiš va gagner les élections européennes à Prague. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que au bout d'un certain nombre d'années, on tourne la page et ceux qui essayent d'invoquer simplement le passé pour se démarquer, ce n'est pas suffisant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu l'expérience Haider où lui a essayé de jouer là-dessus et il s'est, j'allais dire, ça marchait assez bien jusqu'au jour où il s'est autodétruit. Il y a une scission dans le parti. Lui-même est décédé dans des circonstances, voilà, dans un accident de voiture. Bref, il y a eu un trou dans l'ascension du FPÖ. Et avec M. Strache, ce parti s'est refait une nouvelle santé, en quelque sorte, et s'est rendu surtout indispensable parce que plus personne ne voulait de la coalition. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont pu arriver au pouvoir uniquement parce que plus personne ne voulait de la reconduite d'une coalition sociodémocrate, droite, modérée.
Marine Le Pen, interrogée donc sur les déboires de l'extrême droite autrichienne, dit en substance ce que prouve cette vidéo, c'est que ce monsieur Hans-Christian Strache est évidemment un corrompu, mais cette fille d'oligarque est évidemment une oligarque bidon, donc rien ne prouve qu'il y a une intention russe, puisque finalement elle aurait très bien pu être d'une autre nationalité, disons se prévaloir d'une autre nationalité. Et finalement, ce lien entre la Russie et les extrêmes droites n'est en rien prouvé. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Rupnik?
Laissons un instant de côté l'intention russe. Mais ce qui est frappant dans la vidéo, c'est que lui n'est pas gêné qu'un oligarque russe soit en train de l'acheter.
Gêné, mais ce que sous-entend Marine Le Pen, c'est que s'il avait été australien ou...
Oui, parce que une chose, c'est de parler de la banalisation du passé de l'Autriche, du nazisme, etc. Une autre chose, c'est de la banalisation des liens avec Moscou. On a quand même vu la ministre des Affaires étrangères inviter Monsieur Poutine à son mariage. Ils ont fait la fameuse danser avec Poutine. On pourrait appeler ça Donc c'était ça. Et on a eu systématiquement ce parti-là, comme d'autres partis d'extrême droite, comme le parti de la Ligue du Nord de Salvini en Italie, comme d'autres, s'opposer aux sanctions contre la Russie, par exemple, à la suite de l'annexion de la Crimée. Donc on a vu là l'intérêt russe dans cette affaire. Ils ont trouvé dans les partis d'extrême droite des alliés potentiels. Autrefois, ils préféraient agir par d'autres moyens. Mm-hmm. Je crois qu'à la suite de la crise ukrainienne, ils ont opté ils ont opté carrément pour nos alliés principaux se trouvent dans cette mouvance-là. À des degrés.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, d'après vous, Jacques Rupnik ?
Je crois qu'ils ont perdu tout espoir d'avoir une relation qui leur convienne avec les pays d'Europe occidentale. À ce moment-là, la cassure sur la crise ukrainienne, ils ont considéré, alors là, je donne leur version des faits, ils ont considéré que 2014, la révolution Maïdan, c'était en gros une ingérence occidentale, particulièrement américaine et à certains degrés européenne aussi, et que à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose à attendre sur ce plan-là, et ils ont à ce moment-là annexé la Crimée et déstabilisé l'est de l'Ukraine, le Donbass, donc une sorte de guerre hybride qui se développe là. Et à ce moment-là, l'Europe décrète des sanctions et la Russie essaye bien sûr de trouver des alliés qui s'opposeraient à ces sanctions. C'est intéressant d'ailleurs de voir que nous sommes maintenant 5 ans après, les sanctions tiennent toujours. Donc on cherche des alliés qui puissent, faire valoir un autre point de vue. Et ces alliés-là se trouvent dans la mouvance du FPÖ autrichien, Salvini, Orban et quelques autres qui s'opposent aux sanctions européennes contre la Russie.
Une caméra cachée qui fait vaciller l'extrême droite autrichienne. Vendredi, deux journaux allemands ont publié une séquence vidéo montrant Heinz Christian Strache, chef du Parti autrichien de la liberté, le FPÖ numéro 2 du gouvernement autrichien, en train de proposer des contrats publics à une oligarque russe en échange de financements occultes et du rachat du plus gros journal autrichien. Strache a présenté sa démission samedi et le chancelier conservateur Sébastien Kurz a limogé lundi le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl, également membre du parti d'extrême droite FPE. Cette décision a entraîné le départ de tous les autres ministres de ce parti. Ce scandale fait exploser la coalition gouvernementale des conservateurs et de l'extrême droite. Et ce, à quelques jours des élections européennes, pour tenter de voir quelles conséquences vis-à-vis des élections européennes de cet événement. Nous sommes en compagnie de Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Vous avez notamment publié « Géopolitique de la démocratisation » aux presses de Sciences Po. Vous êtes rejoint par Florent Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Florent Parmentier, vous êtes maître de conférences à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Vous êtes notamment l'auteur des « Chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie », paru également aux presses de Sciences Po. Pourquoi diffuser cette vidéo maintenant, puisque bien entendu elle n'a pas été tournée maintenant, elle a semble-t-il 2 ans, ce sont des journaux allemands qui l'ont publiée sur leur site. Alors pourquoi selon vous ?
Répondre à la question pourquoi, c'est se demander à qui peut profiter le crime en quelque sorte, ou profiter la publication, car le crime effectivement est plutôt dans l'étonnante naïveté en fait dont a fait preuve M. Strache, être piégé en fait de la sorte par une vidéo. Pour des partis qui traditionnellement sont très forts en théorie du complot, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la naïveté. À qui cela profite à court terme ? il semblerait que le report de voix se fasse en direction de la droite conservatrice. Pour autant, ce n'est pas la droite conservatrice autrichienne qui aurait eu intérêt à, en quelque sorte, à se débarrasser de son associé aussi peu de temps avant les européennes et suscitant en fait par là même des élections anticipées. Ce qu'on peut voir donc c'est il faudra voir effectivement d'abord ce que les électeurs en retiendront. Est-ce qu'ils retiendront un égarement individuel d'un des leaders d'un parti extrême droite, ou est-ce qu'ils retiendront l'idée que l'extrême droite dans son entier est sous la coupe de la Russie? Ça c'est un point intéressant. Et quant à savoir voilà pourquoi maintenant, au-delà de la proximité peut-être des élections européennes, il y a quelque chose qui est notable dans l'actualité internationale, qui passe relativement inaperçu, mais qui est le retour de la Russie au Conseil de l'Europe. Et pourquoi c'est intéressant? C'est pas en tant que tel en fait le retour, enfin le fait lui-même est sans doute intéressant, mais c'est d'observer que finalement rares sont les pays en Europe qui se sont opposés au retour de la Russie. Il faut savoir que suite à l'annexion de la Crimée, la Russie avait été mise sortie du Conseil de l'Europe et donc en tout cas suspendue. Et on peut peut-être voir dans cette coïncidence de date quelque chose qui est intéressant et peut-être une piste qui consiste...
Une piste qui nous mènerait où, Florent Parmentier?
Qui nous mènerait en fait dans l'idée que peut-être que M. Strache a été lâché par les personnes mêmes qui devraient le soutenir. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse russe dont on pourrait parler, à savoir... C'est finalement, la Russie ne prend pas grand risque à lâcher un allié aussi peu de temps avant, puisqu'il n'y a pas de possibilité de retour. En tout cas, l'extrême droite autrichienne ne va pas tourner le dos à la Russie. En revanche, pour la Russie, elle peut être, alors qu'elle est aujourd'hui unanimement reconnue comme l'un des principaux soutiens finalement de cette alliance populiste européenne qui se constitue, c'est peut-être un moyen finalement d'envoyer des gages à la France, à l'Allemagne, à d'autres pays pour justement essayer d'aller vers une sorte de normalisation de la Russie sur la scène européenne. C'est une hypothèse que l'on peut faire.
Une hypothèse. Autre hypothèse que l'on a entendue, les services secrets allemands, dit-on, pourraient être à l'origine de la divulgation ou alors du tournage de cette vidéo. Alors évidemment, nous n'aurons absolument aucune preuve. À cet égard, ce sont des journaux allemands qui ont diffusé cette vidéo. Votre point de vue là-dessus, Jacques Rupnik, non pas sur l'existence d'un complot des services secrets allemands, parce que ça, il va être difficile d'en avoir la validation, mais en quoi cela pourrait-il profiter à l'Allemagne, au gouvernement allemand, je ne sais pas.
Oui, je n'ai pas d'informations sur les coulisses de l'exploit, si j'ose dire. Bon, c'est un comique connu en Allemagne, un comique, un homme de gauche qui se présente comme l'instigateur. Tout le monde a bien compris qu'il n'était pas le seul maître d'œuvre dans l'affaire. Et c'est des journaux allemands, des journaux tout à fait respectables, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, c'est des grands journaux allemands qui ont divulgué l'affaire. Je pense qu'il y a en Allemagne une préoccupation grandissante avec cette alliance qui se dessine de la droite et de l'extrême droite en Europe. La montée de l'extrême droite n'est plus un épiphénomène réservé à certains pays. En Allemagne même, on a maintenant, avec l'Alternative für Deutschland, on a le principal parti d'opposition au Bundestag et un parti d'extrême droite. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, même en Allemagne, une nouvelle réflexion est apparu sur ce thème-là, et je crois que, bon, ça c'était une des hypothèses, il fallait en quelque sorte favoriser l'éclatement de cette coalition. L'Autriche était un laboratoire pour cette alliance droite-extrême-droite, qui devait ailleurs en Europe s'étendre. Je pense que, casser le modèle, en quelque sorte, à son intérêt de ce point de vue-là. Il est intéressant aussi de voir le contexte, enfin, la cible, Strache. C'est son parti est arrivé au pouvoir dans la coalition, mais a tout de suite réclamé les ministères régaliens. c'est quand même singulier. Vous arrivez dans une coalition, vous êtes le junior partner, vous réclamez l'intérieur, la défense, les affaires étrangères. Oh, Salvini, qu'est-ce qu'il fait en Italie ? Il prend l'intérieur. On vient d'avoir des élections en Estonie. L'extrême droite entre au gouvernement, le parti ECRA. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Et ils obtiennent ministère de l'intérieur.
Pourquoi, donc, selon vous, Jacques Rupti ?
Alors là justement, c'est voilà, le contrôle de l'État. Moi, je ne dis pas qu'un coup d'État est là, mais enfin, l'idée de contrôler le secteur clé de l'appareil de l'État est une chose importante. Les services de renseignement. Il y a deux semaines, dans le New York Times, est apparu en première page un article qui montre comment la responsable de l'institution en Autriche censée surveiller les extrémistes, au sens large, tous les extrémistes, déclarant devant la commission parlementaire en Autriche que le ministre de l'Intérieur autrichien avait réclamé dès son arrivée au pouvoir l'ensemble des fichiers sur l'extrême droite, y compris les indicateurs infiltrés, et que ayant refusé d'obtempérer, un commando du ministère de l'Intérieur est arrivé, a confisqué toutes les archives, etc. Donc l'idée que les partis d'extrême droite en coalition, certes, mais réclament les ministères régaliens et peuvent en faire un usage que certains trouvent préoccupant, ça, je pense, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont amené. Pourquoi la révélation maintenant ? Je crois que le contexte des élections européennes, mais je crois que la préoccupation plus générale est celle-ci. Voilà, que ces coalitions qui visent à banaliser l'entrée de l'extrême droite au gouvernement comportent des risques, y compris pour des secteurs clés comme le ministère de l'Intérieur ou les Affaires étrangères.
Votre réaction, Florent Parmentier ?
Vraisemblablement, effectivement, l'explication la plus rationnelle serait d'aller chercher du côté effectivement des alliances politiques qui sont probables. L'hypothèse allemande donc est probablement plus à ce titre la plus intéressante. Mais à ce stade, en fait, nous en sommes encore à un seuil en fait où il nous manque beaucoup d'éléments pour nous permettre de véritablement porter la décision.
Alors, en tout cas, et même s'il n'y a pas effectivement de signature, il va y avoir des conséquences. Quelles conséquences électorales ? Puisqu'on voit bien là que la date n'est évidemment pas anodine. Cela intervient quelques jours avant les élections. Est-ce que pour autant on peut prédire avec certitude ce qui va se passer pendant ces élections, Florent Parmentier ?
Je crois qu'à court terme et sur l'effet du choc pour ce qui concerne l'Autriche, il y a déjà un petit basculement qui a été fait de l'extrême droite à la droite conservatrice. Une fraction de l'électorat, il y a une porosité entre les deux électorats, certaines porosités. Il y a une fraction des gens qui soutiennent le FPÖ qui sont revenus vers la droite conservatrice. Ça, est-ce que c'est plus le moment, le choc, entre guillemets, quelques jours avant l'élection, ou est-ce que c'est quelque chose de plus durable ? Pour l'instant, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas aisé à voir. Est-ce que ça peut avoir un effet plus large au niveau européen ? Ça va renforcer, certainement, les perceptions croisées. Quand je dis les perceptions croisées, c'est-à-dire que, du côté des opposants au Front populiste, ça ne fait que confirmer un certain nombre d'idées qu'on pouvait avoir, qui était effectivement le soutien de la Russie à l'extrême droite. Mais ce soutien, il est connu. Il est connu tout simplement parce qu'en 2014, ce qu'on appelait encore à l'époque le Front National, en fait, avait eu des financements d'une banque russe. Donc l'idée selon laquelle il y ait des liens d'argent entre légaux dans le cadre du Front National, moins légaux dans le cadre de M. Strache, est quelque chose en fait qui renforcera certainement ce point. Est-ce que il y aura une désertion massive des électeurs européens sur leur liste d'extrême droite en raison de l'affaire Strache ? C'est beaucoup moins probable.
Bon, en tout cas, à Vienne, Jacques Rupnik, les Verts espèrent profiter de la chute de la coalition.
Oui, certainement. J'ai mentionné le fait qu'aux élections présidentielles, les deux partis qui se retrouvaient au second tour étaient les libéraux, donc le parti d'extrême droite, et les Verts. Je pense que les Verts, effectivement, espèrent...
À ceci près que maintenant, ils sont plutôt déchirés, les écologistes viennois, et ils essayent de revenir à leurs fondamentaux, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et puis à une opposition aux populistes, mais ils sont donc dans une situation peut-être moins favorable qu'en 2016.
Oui, sans doute qu'ils n'auront pas le score qu'a eu leur candidat au présidentiel. Le candidat à la présidentielle a simplement rassemblé tous ceux qui voulaient s'opposer à l'extrême droite. Donc ça c'est un phénomène simple. Non, je crois que le Parti social-démocrate, dégagé de l'alliance avec la droite, peut se refaire une santé. L'opposition, les Verts, vont eux aussi sans doute progresser. Mais je crois que l'effet sur l'Autriche, bon, casser l'alliance de la droite et de l'extrême droite, a une signification plus large, parce que le modèle de cette alliance, il vient pas d'Autriche. L'idée vient de Hongrie. Strache, il le dit d'ailleurs en partie dans cette vidéo, mais il le dit clairement que ce qu'a fait Orban, c'est en fait très bien. Et d'ailleurs, Orban a
rencontré
Strache.
Qu'est-ce qu'il a fait,
Orban a, en quelque sorte, dévalisé le magasin de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un parti d'extrême droite en Hongrie qui s'appelle le Jobbik. Orban avait un parti, disons, national-conservateur en Hongrie, le Fidesz, qui était hégémonique, mais qui avait sur sa droite un parti de droite très très important, le Jobbik. Et progressivement, Orban a repris les thèmes et sur la question de l'immigration, la crise migratoire a été vraiment le moment où Orban s'est positionné comme le principal défenseur du pays face à l'invasion migratoire. Et à ce moment-là, le Jobbik s'est retrouvé court-circuité. D'ailleurs, le Jobbik essaye de se réinventer une nouvelle identité maintenant comme un parti de centre-droit. Donc, ce qui doit déboussoler ses électeurs. Mais donc, il y avait peut-être chez Kurz cette idée que je fais l'alliance... le chancelier autrichien Kurz. Je fais cette alliance avec l'extrême droite, mais à travers le thème migratoire et aussi parce qu'on est quand même plus respectable, on va reprendre un petit peu les électeurs qui sont partis vers l'extrême droite. Ça, c'est l'hypothèse que faisait Kurz. Orban l'a fait, Kurz ne pourra pas le faire. Il vient de rompre la coalition, il y a de nouvelles élections. Et ça, c'est important pour d'autres pays d'Europe qui voulaient suivre le même chemin.
À 8h36 sur France Culture, on continue d'évoquer les conséquences maintenant de cette vidéo qui a ébranlé la coalition au pouvoir en Autriche. Nous sommes en compagnie de Jacques Rupnik et de Florent Parmentier, deux spécialistes de cette région du monde. Florent Parmentier, est-ce que ça va rendre les Russes plus prudents ?
Non, pas forcément. Disons que le but de la Russie n'était pas d'aller au Parlement européen, d'avoir un groupe russe qui serait capable de refaire toutes les lois. L'idée principale de la Russie, à mon sens, est plutôt d'avoir un groupe qui, certes, auront des visions sympathiques vis-à-vis de la Russie, seront beaucoup moins critiques sur la question de l'annexion de la Crimée, seront beaucoup moins critiques sur tout un tas d'enjeux, finalement, qui concernent au premier chef les Russes. Mais l'idée est plutôt de créer une désunion européenne, plutôt que de faire une Union européenne qui pourrait contrôler. Tout simplement, dans le dispositif, dans le jeu du Parlement européen tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de contrôle. D'autant que, finalement, le groupe populiste, pour le dire très rapidement, s'il devait faire un score important aux élections européennes, c'est-à-dire avoir plus de 70-80 députés, n'aurait finalement pas vraiment de possibilité de contrôler le dit Parlement. Donc, est-ce que ça va de ce point? Quels étaient leurs objectifs de départ? C'est probablement d'instiller un peu de désorganisation. Mm-hmm. Ce qu'on a vu dans ce cadre-là correspond à cette idée un peu de désintégration, de faire perdre un peu la confiance, ne serait-ce que des citoyens par rapport à leurs élus. Ça, ce genre d'affaires y participe. Donc, on peut penser que la Russie, finalement, quand on regarde ces dernières années, a fait des alliances avec des partis d'extrême droite, mais n'est pas hostile à faire des alliances avec des partis de droite traditionnels. On peut prendre dans la campagne présidentielle française le cas de François Fillon. La Russie aurait été tout à fait contente de travailler avec François Fillon, nouveau président. Et donc c'était une hypothèse en fait qui était étudiée. Donc est-ce que ça va radicalement changer la Russie? Je ne crois pas.
Jacques Rupnik, cette fois-ci, les conséquences sur les autres extrêmes droites. Et là, on pense à ce qui est nommé l'international populiste à tort ou à raison. Vous évoquiez la Hongrie d'Orban. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour la Hongrie d'Orban, cette affaire? Est-ce que la manière dont Orban gouverne la Hongrie pourrait s'en trouver modifiée?
Je ne pense pas que ça change la manière de gouverner en Hongrie, à l'intérieur. Ça change la donne pour l'hypothèse Orban, leader d'une recomposition politique à l'échelle européenne. C'était ça, son idée, en fait. Lorsqu'ils se sont rencontrés avec Salvini, c'était au mois de septembre, fin août, début septembre, c'était ça leur idée. C'était, nous ne cherchons pas à faire un Brexit, à casser l'Europe, à sortir de l'Europe. L'idée, maintenant, c'est de la transformer à notre image, en quelque sorte. Il faut recomposer l'Europe.
Et ce donc, qui veut dire que, finalement, l'extrême droite est devenue pro-européenne?
Pro-européenne, mais alors il donne au sens pro-européen une autre signification que lui donnait, je ne sais pas, Jacques Delors ou les sociodémocrates.
Ça, c'est possible, effectivement.
Les sociodémocrates et les chrétiens démocrates qui avaient construit l'Europe pendant un demi-siècle.
Donc, ça veut dire que finalement, ça n'est pas une extrême droite pro à la fois Brexit, Frexit et ainsi de suite.
Non,
Hongrixte.
Oui, il y a le Polexit, le Tchexit. Voilà. Non. Tout ça est débattu dans les pays en question et tout ça est rejeté. Et
d'ailleurs, c'est quand même significatif.
Ah oui, le spectacle que donne la Grande-Bretagne depuis 3 ans avec la question du Brexit est édifiant. Le fait de voir qu'au bout de 3 ans, le Parlement britannique accouche de débats où on propose 8 options pour quitter l'Europe. Et on ne se met d'accord sur aucune. Je crois que ça, c'était sidérant. Et même, je reviens d'Europe centrale, de Prague et d'autres pays, et je crois qu'il y a une certaine stupéfaction de voir qu'un pays qui était une référence pour eux, ils avaient en quelque sorte adopté une vision britannique de l'Europe. Mmh. À quoi sert l'Europe? C'est principalement économique, c'est un marché, c'est des fonds européens, la défense, les affaires étrangères, c'est l'OTAN et les États-Unis, et la politique, c'est au niveau de l'État-nation, la démocratie, ça nous regarde, et les intrusions de l'Europe sont très très malvenues. Là, le modèle britannique, disons, il se retrouve orphelin du départ des Britanniques. Mais cette recomposition que souhaitait Orban, bon, c'est rapatrier les pouvoirs au niveau des États. Hein, et faire l'Europe des nations, qui alors aussi engage une recomposition idéologique. Parce que quand on voit ce qui les unit, c'est pas seulement l'hostilité à Bruxelles, c'est l'hostilité à l'Europe, parce que l'Europe, c'est le sans-frontières, c'est l'ouverture des frontières. Donc tous ces gens ont en commun une chose principale, qui est l'obsession de l'immigration et la question des frontières. Sur le reste, ils sont divisés. Lorsque Monsieur Salvini demande à la solidarité européenne sur la question migratoire, c'est pas Monsieur Orban qui va lui donner montrer une solidarité, ni Monsieur Kaczynski, qui ne veulent pas voir de migrants. Sur la question de la Russie, alors là, il y a une question. Là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui les intéresse chez Poutine? Et je crois qu'il y a au-delà des finances. Là, on en voit, sonnant et trébuchant, il y a quelques soutiens qui ne sont pas négligeables en politique. Mais il y a derrière aussi la fascination de la force. Je crois qu'il y a chez ces gens la Russie aujourd'hui est un pays qui se rétablit sur la scène internationale, annexe la Crimée, intervient en Syrie, etc. Donc ça, la fascination de la force, c'est une chose. Et il y a aussi l'idéologie. L'idée que le Poutine, comme ses partis nationalistes, voit l'Europe comme quelque chose de décadent, de permissif, en train de se décomposer. Et donc ce mépris de l'Europe décadente face à Poutine qui censé représenter la force et la virilité, là on voit chez Salvini, chez les Autrichiens, chez peut-être chez Orban, il y a cette espèce de fascination d'une Russie forte face à l'Europe décadente.
Florent Parmentier, votre point de vue.
Oui, je pense que ça peut se résumer en fait à ce que Sylvain Kahn appelait une sorte de conversion à l'Europe des partis d'extrême droite. Conversion à l'Europe, tout simplement. Alors, je pense que le changement le plus spectaculaire, c'est sur l'organisation de la vie politique européenne. On a des partis qui, pendant très longtemps, avaient fait leur fonds de commerce d'une critique du fédéralisme, des entités fédérales, de Bruxelles, etc. Et qui, aujourd'hui, essaient de jouer collectif et d'organiser une vie politique transpartisane. On a longtemps cru que la vie politique transpartisane, c'était bon pour les Verts, c'était bon pour le Parti Socialiste Européen, pour le Parti Populaire Européen. Des partis qui savaient, d'ailleurs, en leur sein, finalement, avoir des alliances qui aujourd'hui, nous paraissent curieuses. Mais il faut savoir voilà que Viktor Orban fait partie du PPE et qu'au sein du PPE, il a ses alliés. Il a des alliés en Allemagne, de gens de partis de la CDU, de la CSU, qui peuvent être... effectivement, qui ont pu le soutenir à différents moments, notamment au moment où il était question en fait d'expulser M. Orban du groupe parlementaire. Il avait malgré tout, voilà, au sein du PPE, un certain nombre de soutiens. Donc il y a cette vie politique transpartisane qui est une nouveauté assez radicale. Finalement, l'extrême droite joue le jeu des institutions européennes et joue le jeu d'une sorte d'alliance européenne des populistes qui en soi est effectivement assez intéressant. Est-ce que donc le précédent Brexit aussi a joué sur un autre point, la fin de la sortie de la zone euro. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est souhaité,
plus quelque chose de réclamé,
avancé. Là où, il y a encore 2 ans, l'extrême droite française avait fait l'un de ses chevaux de bataille, en fait, l'idée de sortir de l'euro. Ils ont vu qu'il y avait un coût extrêmement important, finalement, à avancer ce genre de proposition. Et donc, il y a une forme de conversion, à la fois une forme de réalisme économique qui fait perdre une partie de la spécificité. Il y a une forme de vision transpartisane politique, c'est quelque chose là aussi de radicalement différent. Et puis une alliance, effectivement, qui se fait alors à géométrie variable. On met le PiS polonais parmi les partis considérés comme illibéraux, populistes, alors même que leur vision, l'idée qu'ils pourraient se rapprocher de la Russie fait partie de la science-fiction, aussi sûrement que les écrits d'Isaac Asimov.
Donc on a Isaac Asimov. Auteur de science-fiction, mais qui n'a pas de lien avec la politique du PiS jusqu'à présent.
Mais effectivement, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une alliance qui peut être sur des questions migratoires, mais sans en tirer les mêmes conséquences politiques. Donc c'est ça qui est intéressant, une sorte de vision civilisationnelle européenne qui prétend défendre par-dessus les institutions européennes, en quelque sorte.
Un mot là-dessus, peut-être, Jacques Rupnik, sur la Pologne et sur les conséquences de tout cela.
Oui, je pense que le cas polonais illustre bien le fait qu'il est très difficile d'établir une internationale des nationalistes, parce qu'ils convergent sur certains points, sur le diagnostic de l'Europe décadente, faible, etc. Ils sont tous préoccupés par la question migratoire, donc il y a certains points communs qui les unissent. Et puis après, quand on arrive sur des questions concrètes, on voit leurs divergences. J'ai mentionné la question de la répartition la solidarité face à la crise migratoire, mais la question de la Russie, puisque le cas autrichien nous pose la question de la relation avec la Russie de Poutine, j'allais dire, on trouve pas en Europe aujourd'hui pays plus déterminé, parti comme plus déterminé que le PiS polonais, dans sa méfiance, et c'est un euphémisme, son hostilité vis-à-vis des intentions de la Russie. S'il y a un pays qui a érigé la question ukrainienne en véritable test des relations entre la Russie et l'Europe, c'est bien le PiS. Donc là, on voit une divergence totale, par exemple avec Orban, mais aussi avec les Autrichiens ou Salvini.
Oui, parce que c'est quand même un paradoxe très fort que cette question donc de l'attitude par rapport à la Russie pour des pays qui ont eu l'habitude de la Russie, puisque si on devait refaire l'histoire des frontières polono-russes...
Absolument, pour la Pologne, ça il est hors de question, c'est la menace de sécurité la première priorité du gouvernement PiS, c'était de persuader Donald Trump d'installer une base militaire américaine en Pologne, en dehors de toutes les de tous les autres accords et traités, une base militaire que eux financeraient à hauteur de 2 milliards de dollars et qu'on appellerait Fort Trump. Donc là, on est dans une autre approche que celle de, par exemple, de Viktor Orban, qui est beaucoup plus indulgent vis-à-vis de Poutine, qui a laissé la Russie, disons, financer une centrale nucléaire en Hongrie, qui défend les minorités hongroise en Ukraine et par là même fait alliance avec la Russie sur la question, disons, de l'usage de la langue en Ukraine. Mais là aussi, il faut pas se faire d'illusions. L'opinion hongroise, elle est pas pro-russe. Là, c'est pas là-dessus que Orban gagne des voix. Les Hongrois connaissent 1848, 1956. L'ordre a été rétabli manu militari par la Russie et leur liberté en a souffert. Donc là, je pense que ça, c'est un thème qui n'est pas populaire dans l'opinion dans les pays d'Europe centrale.
Un mot de conclusion, Florent Parmentier.
Ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'à côté de la question russe, on a aussi la présence de Steve Bannon qui pour l'extrême droite européenne, est peut-être l'un des inspirateurs et l'un des points à suivre. Donc il y a une mutation actuellement qui est en train de se faire sur la conversion à l'Europe, sur des nouveaux rattachements qu'on n'avait pas forcément anticipé. Une partie de l'extrême droite française était très anti-américaine et donc il y a là-dessus une recomposition assez intéressante à observer.
Florent Parmentier, les chemins de l'État de droit, la voie étroite entre entre Europe et Russie, c'est aux presses de Sciences Po, ainsi que le livre de Jacques Rupnik, Géopolitique de la démocratisation.